Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ces quatre semaines de l'Avent, nous vous proposons de découvrir ou d'approfondir ce que disent les prophètes qui accompagnent ce temps de préparation à Noël. À une semaine de la Nativité, Michée et Malachie nous accompagnent. Michée et Malachie sont les deux prophètes qui nous guident pendant cette troisième semaine de l'Avent. Que nous font-ils découvrir du visage du Messie? Comment nous guident-ils pour accueillir l'Emmanuel à Noël? Nous en parlons avec le Père Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse. Bonjour Père.
Bonjour.
Vous êtes aussi responsable de la formation au diacre permanent et je précise que vous enseignez les prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Alors nous allons tout de suite commencer avec le prophète Michée. Qui était-il?
Qui était le prophète Michée? Eh bien, un homme de la région de Jérusalem. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est la même époque que, dans le même royaume du sud, Isaïe. Et dans le royaume du nord, on a Amos, un tout petit peu avant, et puis aussi le prophète Osée. Donc Michée, homme du 8e siècle, qui vivait plutôt à la campagne, même si sans doute il est venu prêcher à Jérusalem.
Le contexte historique dans lequel il a prêché, quel est-il?
C'est vraiment important de le dire parce que ce 8e siècle, qu'on appelle quelquefois le siècle d'or des prophètes en Israël...
Pourquoi siècle d'or? Parce qu'il y en avait beaucoup?
Oui, alors c'est le début, en fait, de ce dont on a une œuvre écrite, c'est-à-dire les prophètes avec une œuvre écrite, et les auditeurs qui connaissent l'allemand reconnaîtront peut-être là une traduction du mot « Schriftpropheten ». C'est pas forcément les prophètes eux-mêmes qui ont écrit, mais on a un livre qui porte leur nom et qui contient leurs oracles. Voilà, livre de Michée, et non pas, et il paraît qu'une fois au séminaire français à Rome, un séminariste est allé faire la lecture et qu'il a dit « lecture du livre de Michée ».
Oui, évidemment,
ça fait
bizarre.
Ça a tellement fait rire les gens que l'office a été interrompu et qu'on est sorti de la chapelle. Alors, bref, peu importe, et de toute façon, ce sont des noms hébreux et à vrai dire, Micha Yehu, on pourrait choisir de le prononcer Michée ou Michée. À vrai dire, ça n'est pas très important.
Gardons Michée pour cette émission. Et donc, le contexte historique dans lequel a vécu Michée?
On est à une époque de relative prospérité, tant en Israël, royaume du Nord, qu'en Juda, royaume du Sud, mais aussi de grandes disparités entre les catégories socio-économiques. Et donc vous avez des très riches, mais vous avez aussi des très pauvres. Et d'ailleurs, Michée lui-même fustige les malversations d'un certain nombre de propriétaires terriens qui dépossèdent les pauvres paysans pour agrandir leur territoire. Et ce qui explique sans doute que ce prophète, parmi d'autres, mais notamment Michée, a été beaucoup lu en Amérique latine dans les dernières décennies. Et je crois que les théologiens de la libération sont notamment référés à différents prophètes du 8e siècle, mais aussi spécialement à Michée. Donc il y a vraiment des questions sociales, des questions économiques. Le 8e siècle, c'est aussi un siècle de troubles politiques. Alors peut-être en Juda, mais surtout au niveau international. C'est-à-dire que l'est de la Méditerranée ancienne, donc en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, est disputé par deux grands empires. Au sud-ouest, c'est l'Égypte, bien sûr, et puis au nord-nord-est, l'Assyrie, donc L'Assyrie.
En un mot.
Et l'empire assyrien, l'empire néo-assyrien à partir de 745, domine la scène internationale, à vrai dire, et finira d'ailleurs par annexer le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Donc c'est une période très troublée au niveau politique, et ça se voit dans les écrits des prophètes, qui invitent souvent le peuple à ne pas s'allier, et les rois en particulier, à ne pas chercher leur refuge dans l'Assyrie ou dans le secours de l'Égypte. Isaïe est notamment...
Donc à rester indépendant finalement.
Rester indépendant, et à vrai dire, ce qui les intéresse, c'est la politique, mais pas seulement, c'est surtout la théologie. Et donc ils disent surtout, ne vous fiez pas au roi d'Assyrie ou au roi d'Égypte, ou au pharaon d'Égypte, mais confiez-vous dans le Seigneur. Donc on a aussi, vous voyez, questions socio-économiques, questions politiques. Il y a aussi une troisième problématique qui est la question religieuse, très présente dans ce 8e siècle, parce que non seulement le culte des idoles est très répandu encore en Israël et en Juda, et donc les prophètes vont s'y opposer avec plus ou moins de violence, mais souvent avec générosité, je dois dire. Et ils critiquent aussi, ça n'est peut-être pas le thème dominant du livre de Michée, mais ils critiquent aussi la fausse religiosité en Israël. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se réfugie derrière une religion illusoire, en semblant observer les prescriptions du culte, mais finalement en se désintéressant de la justice. Et ça, on peut dire que tous les prophètes du 8e siècle ont critiqué cette mauvaise conduite. Ouais. Et en tout cas, Michée y est très attentif.
Alors, nous allons lire un extrait de ce livre de Michée. Nous sommes au chapitre 5, versets 1 à 4. Nous l'entendrons d'ailleurs à la messe dimanche, si je ne me suis pas trompée dans mes recherches. « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. » Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Voilà cet extrait du livre de Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Père Cyprien Comte, qu'est-ce que ce mystérieux gouvernant annonçait dans ce texte ?
C'est un petit peu mystérieux. Je ne crois pas que mes collègues aient identifié de qui il s'agissait, mais la figure d'un gouvernant qui viendra apporter la paix et la sécurité, très présente dans beaucoup de cultures et beaucoup de littérature, à vrai dire, et un véritable signe d'espérance. Et ceci d'autant plus que on parle ici de Bethléem, qui évidemment est connu dans la Bible et dans le monde juif. Alors il est beau en effet que la liturgie nous donne à lire ce texte cette année, pendant le temps de l'Avent, et nous l'aurons aussi, comme chaque année, dans l'évangile de l'Épiphanie. Et c'est souvent par là que l'un ou l'autre auditeur a déjà entendu ce texte, en fait. Hein. Oui. Quand est-ce que... Peut-être on pourrait poser la question aux auditeurs. Bon, ils ne peuvent pas téléphoner pour nous donner la réponse, mais voilà. Quand est-ce que il est question de cet oracle de Michée dans l'Évangile ? Alors, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, lorsque les mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Ils cherchent le roi des Juifs, c'est logique de venir à Jérusalem. Mais on leur fait répondre par les savants que le Messie doit naître à Bethléem. Et là vient cette citation, justement, un tout petit peu modifiée par l'évangéliste. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que Bethléem ? Eh bien, c'est la cité du roi David. On se rappelle que Jessé était de Bethléem, et donc ses fils nombreux, dont le petit David, venait aussi de Bethléem. Et donc, on a vraiment en tête, quand on lit la Bible hébraïque, et quand on lit l'Évangile, citer Michée, c'est faire référence sans le dire, en fait. Vous voyez, dans ces versets que vous nous avez lus, il n'y a pas le nom de David.
Oui, c'est vrai.
Et pourtant, évoquer quelqu'un qui doit gouverner Israël et qui vient de Bethléem, ça veut dire qu'on évoque un descendant de David.
Il y a quand même marqué le plus petit des clans de Juda.
Oui, donc c'est dans le royaume du Sud. On sait bien d'ailleurs les personnes qui ont fréquenté le pays là-bas, y compris récemment, ou bien qui ont déjà vu une carte, savent que Bethléem, on peut y aller à pied de Jérusalem. Alors ça se fait en quelques heures, vous voyez, c'est quoi ? C'est peut-être 2 heures de marche. Ça n'est pas insurmontable, mais... on n'est pas à Jérusalem même, c'est quand même un village, même si maintenant il a grandi. Voilà. Et puis on sait bien qu'aujourd'hui, politiquement, il y a une quasi-frontière hein, entre Bethléem, territoire palestinien, et Jérusalem qui est annexée par Israël aujourd'hui.
Il y a une référence à celle qui doit enfanter, donc à la Vierge Marie dans ce texte.
Alors c'est ça, si nous lisons avec des lunettes chrétiennes ce
Oui,
texte,
c'est ça.
on voit celle qui doit enfanter. C'est assez remarquable de voir que ce participe actif en hébreu, Yoleda, renvoie à la figure de la fille de Sion qui doit enfanter. D'ailleurs, elle était mentionnée au chapitre précédent. On parle de la fille de Sion qui doit enfanter, même si l'oracle est beaucoup moins prometteur et joyeux au chapitre précédent. Et donc, en fait, pour les chrétiens, pour ceux qui voient un oracle messianique, je pense que les juifs voient aussi un oracle messianique ici, et que donc on pense à la mère du Messie. On dit d'ailleurs souvent que dans le peuple juif, peut-être à l'époque de Jésus et peut-être encore aujourd'hui, beaucoup de femmes disent bah, finalement c'est une vocation qui pourrait arriver à l'une d'entre nous d'être celle qui doit enfanter le futur gouvernant d'Israël. Voyez,
oui.
Et donc c'est nous y voyons effectivement une belle figure de la Vierge Marie qui nous accompagne dans ce temps de l'Avent, même si évidemment on n'a pas son nom ici. On pourrait dire peut-être encore autre chose sur l'enfant qui doit naître. Voyez,
oui.
il est à la fois on imagine. Et au 8e siècle, c'est encore pensable, vous voyez, qu'un roi va se lever dans la dynastie de Juda. D'ailleurs, ça se produit, en fait, puisque ce sont encore les descendants de David qui sont sur le trône à Jérusalem, en Juda. Mais en fait, ici, on comprend que cet enfant annoncé a une dimension mystérieuse. Vous voyez les mots qui sont dits, ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. On a l'impression d'une... Il y a quelque chose de mythique presque dans la manière de décrire cet homme providentiel. Peut-être que ça fait partie aussi hein, de ce qu'on dit souvent en littérature, le gouvernant mystérieux qui va venir rétablir la situation n'est pas forcément seulement quelqu'un dont on connaît la famille et les origines, vous voyez.
Et pourtant, je trouve que quand on parle justement des origines qui remontent au temps ancien, on a l'impression quand même qu'il y a une lignée.
Alors, tout à fait, mais il n'y a pas de date, vous voyez.
Oui, il n'y a
et
pas
donc,
de date, c'est vrai.
Les jours d'autrefois, est-ce que c'est seulement 2 siècles et demi avant l'époque du roi David, ou bien finalement quelqu'un, vous voyez, il serait logique, je ne sais pas si les pères de l'Église ont dit cela, mais qu'on y voit, dans une théologie chrétienne, qu'on y voit le Verbe qui était auprès du Père depuis avant le commencement. Vous voyez, au commencement était le Verbe, et par lui tout a été fait. Bah, peut-être qu'on a un écho de cette croyance des chrétiens, un écho comme en avance finalement. Et peut-être je voudrais noter aussi, non seulement voilà, on a cet homme qui va être un berger par la puissance du Seigneur, qui va apporter la sécurité, et puis il y a aussi, c'est le verset 3 à la fin, « Il sera grand jusqu'au lointain de la terre ». Vous voyez, c'est-à-dire que le règne de cet enfant, non seulement a des origines antiques, mais aussi, il pourrait bien être sans limite. Et donc, on a cette présentation d'un... Ça nous fait penser, et je crois qu'on l'a déjà évoqué cela, n'est-ce pas, à un règne sans limite. Et on pourrait dire sans fin, même si c'est ajouter quelque chose au texte, vous voyez, est-ce qu'on parle de l'éternité vers l'avenir? Je ne suis pas sûr. Par contre, j'aime beaucoup aussi, et c'est de tous les temps, mais c'est tellement actuel, et lui-même, c'est la conclusion hein, de l'oracle, et lui-même, il sera la paix. Voilà, et on se souvient aussi de ces oracles d'Isaïe,
prince de la paix.
Voilà, annonçant le prince de la paix, celui sur qui repose l'esprit, celui qui aussi ramènera l'harmonie, en fait, dans le pays, sur toute la montagne sainte, dit Isaïe, qui est donc presque contemporain, ou même tout à fait contemporain de Michée. Et puis aussi avec cet oracle qui dit de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Et on voit très fort, en fait, dans cet espoir d'Israël, non seulement l'annonce de quelqu'un qui va gagner les élections, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Ici, c'est une monarchie et de droit divin qui plus est, même si parfois la prise de pouvoir se fait par les armes. Mais en tout cas, on a non seulement quelqu'un qui va gouverner, mais qui apportera la paix et qui règnera jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on voit petit à petit se dessiner cette figure d'un messie qui n'est pas seulement un roi politique à un moment donné. Voilà, on attend, nous avons envie de dire, nous chrétiens, on attend le Christ, roi de l'univers, qui apportera la justice et une paix sans fin, comme le promettaient les psaumes d'ailleurs.
C'est vrai. Est-ce que Michée a des reproches à faire à ses contemporains ?
Michée, effectivement, est assez attentif aux questions de justice sociale. Alors, au 8e siècle, on a ça très fort chez Amos. C'est aussi relativement présent chez Isaïe, notamment la première partie du livre d'Isaïe, même si ça sera repris. Et on sait bien que c'est un thème très présent chez les prophètes. J'espère qu'on aura bientôt un exemplaire des cahiers évangiles. Peut-être que les auditeurs connaissent cette collection de revues, hein. Et en fait, on aura peut-être bientôt sur la justice sociale chez les prophètes. Il me semble qu'en langue française, on n'a pas vraiment une synthèse, sinon peut-être le livre récent de Sophie Ramon et Olivier Artus qui traitait cette question chez un éditeur grand public. Peut-être qu'on peut regarder justement ce que dit Michée au chapitre 3. Il y a tout un chapitre qui est intitulé dans la Bible que j'ai sous les yeux « Contre les responsables ». Vous voyez ? Et on a vraiment l'impression que l'injustice, la violence sont le lot de ceux qui détiennent le pouvoir. Mmh. Écoutez donc, chef de Jacob, dirigeant de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit ? Et ensuite, il critique, c'est le verset 3 du chapitre 3, ceux qui ont, les images sont très dures, hein, ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, qui lui ont arraché la peau et brisé les os, la description continue, et ensuite il dit, ceux-là pourront bien crier vers le Seigneur, il ne leur répondra pas. Et ensuite, à cause du mal qu'ils ont commis. Vous voyez, et verset 9, écoutez ceci, vous qui avez la justice en abomination, qui tordez tout ce qui est droit, bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans la perfidie. Puis après, on parle de la corruption des puissants. Alors malheureusement, je vous disais, hein, ce siècle est un siècle où certains vivent dans le luxe et d'autres sont dépouillés de tout ce qui est nécessaire. Et en fait, malheureusement, c'est sans doute de tous les temps. Et aujourd'hui, peut-être dans notre société française, on vit cela. Et certainement aussi au niveau mondial, hein, on se rend compte un petit peu mieux qu'une partie du monde vit richement, alors que d'autres sont prêts à tout pour gagner de quoi manger et pouvoir nourrir et habiller leurs enfants.
Michée dit, c'est intéressant, il dit « Vous tordez ce qui est droit » et ça fait le pendant avec le Christ qui vient redresser ce qui était tordu.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est pas Jean-Baptiste qui annonçait ça ?
Oui, Jean-Baptiste invite à aplanir les collines, à redresser les sentiers, effectivement. Et puis on a dans la prière du... est-ce que c'est le Veni Sancte Spiritus, la séquence de Pentecôte, où on dit « redresse ce qui est droit ». Et on sent bien d'ailleurs, en théologie chrétienne, n'est-ce pas, que le Christ ne fait rien sans l'Esprit Saint, et on peut dire réciproquement. Voilà, mais en tout cas, oui, clairement, c'est quand même un refrain, vous savez, chez les prophètes, observer la justice et le droit. Il y a un verset d'Isaïe, je ne saurais plus dire la référence là, où on dit, c'est peut-être dans Isaïe 5, au sujet du cantique de la vigne, où Dieu dit qu'il attendait de son peuple la justice, mishpat, et que voici les cris de détresse, mishpar. Et donc il y a un jeu de mots en hébreu entre la justice et les cris qui témoignent que justement le peuple ne répond pas à l'appel de Dieu de vivre selon la justice.
Alors avant de passer au prophète Malachie, nous allons faire une petite pause. Père Cyprien Comte, je vous propose que nous écoutions « Venez divin Messie » interprété par la maîtrise de la prémaciale de Lyon.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Miché et Malachi nous guident pendant cette troisième semaine de l'Avent. Que nous annoncent-ils? Nous avons vu dans cette première partie d'émission le prophète Miché et nous sommes avec le père Cyprien Comte, enseignant les prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Alors parlons maintenant de ce prophète Malachi. Qui était-il, père Cyprien?
Eh bien, c'est difficile à dire.
Allons bon.
Nous ne savons rien du prophète. Voilà. Et d'ailleurs, comme son nom signifie « mon messager », on se demande même si c'est son nom, en fait, Malachi. Vous voyez.
Donc, ça pourrait être un surnom, un sobriquet.
Voilà, c'est possible, effectivement. Voici que j'envoie mon messager, Malachi 3, verset 1. Voici que j'envoie Malachi. Bon, voilà. C'est... En fait, on peut le situer quand même dans l'histoire, grosso modo, grâce aux indices qui se trouvent dans le livre. En effet, il semble bien que le culte fonctionne depuis longtemps et donc nous sommes un certain temps après le retour d'exil. Alors nous quittons nos prophètes du 8e siècle qui nous accompagnent beaucoup pendant l'Avent et ils critiquent les prêtres avec une certaine violence, ce qui laisse penser que lui ne fait pas partie du clergé. Voilà, donc on sait ce qu'il n'est pas.
D'accord. Enfin,
en tout cas, c'est possible.
On peut le situer à un siècle particulier.
On dit
particulier.
Peut-être au milieu du 5e siècle, mais enfin, vraiment, il faut le dire avec des précautions. Voilà.
Ouais.
On ne sait pas exactement. À vrai dire, dans le cas de beaucoup de livres bibliques, on ne sait pas quand ils ont été terminés précisément, mais on arrive souvent à donner des bornes à leur rédaction. Et puis, quelquefois, comme c'était le cas pour Isaïe, pour Michée, le texte du livre lui-même nous donne des dates pour la prédication du prophète. Or, ici, nous n'avons rien de tel. On peut dire un petit mot peut-être sur le contenu du livre,
oui.
Mais en fait, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est difficile parce qu'on ne l'entend pas très souvent dans les églises. Je ne sais pas si dans les synagogues, on lit beaucoup Malachi, mais il passe une bonne partie de son énergie à faire des reproches aux prêtres. Alors, il rappelle l'amour de Dieu pour Israël quand même, et puis il parle des mariages, mais il y a vraiment beaucoup de questions autour de la pureté des prêtres qui doivent célébrer le culte du Seigneur, et notamment... offrir des animaux, des offrandes, des sacrifices de bonne qualité. Voilà, on sent qu'il y avait quelques problèmes liturgiques à l'époque. Et puis, il parle des redevances pour le temple et du jour du jugement. Finalement, ça n'est pas forcément des thèmes qu'on a envie d'explorer en détail.
C'est voilà. Vrai. Il a un mot aussi sur le... Malachi, pardon, sur les unions illégitimes. Enfin, sur la fidélité dans le mariage, il me semble avoir vu ça.
Oui, il parle des mariages, effectivement.
Dieu accuse les Israélites de le trahir, lui et leurs épouses.
Mais il y a quelques récriminations contre les Israélites. C'est chapitre 2, hein, versets 10 à 16, à propos des mariages, effectivement. Peut-être aussi que une des questions qui se posent après l'exil concernant la pureté des mariages, c'est de savoir qui on a le droit d'épouser. Ah. Et comme on est sous l'Empire perse, et que Israël, tout en étant une province de l'Empire perse, hein, on parle de la Transeufratène, si j'ai bon souvenir, Israël doit reconstituer, affermir son identité, et donc les prophètes de cette période-là sont souvent hostiles au mariage mixte. Il faut épouser une Israélite, et maintenir les traditions des pères. C'est aussi plus ou moins la période où la Torah est en train d'être fixée, vous voyez, sous l'Empire perse, et où, il faut bien le dire, donc, c'est une période importante pour la rédaction de la Bible. Quelquefois, on a en tête que les textes bibliques sont très anciens, et en effet, bon nombre proviennent de traditions anciennes, mais il faut dire aussi que cette période perse, après la période de l'exil au VIe siècle, est vraiment un moment névralgique pour la constitution des Écritures saintes que nous connaissons. Donc ça explique pourquoi cette insistance sur les mariages. D'accord. On trouve chez Esdras et Néhémie aussi des textes qui nous semblent parfois un petit peu surprenants. En tout cas, on voit que les préoccupations de l'époque ne sont pas tout à fait les nôtres. Mmh. Mais on va trouver aussi des oracles qui sont relus par les chrétiens et où, en fait, on trouve une annonce du Messie, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, ou peut-être de quelqu'un qui vient avant le Messie.
Oui, alors nous allons lire un extrait du livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. » Père Cyprien Comte, quels personnages sont annoncés dans ce texte, dans ces textes de Malachie ?
Vous voyez, voici que j'envoie mon messager, c'est-à-dire en hébreu Malachie. Alors, est-ce qu'on est en train de parler du prophète lui-même ?
Ou d'un autre ?
Ou peut-être d'un autre. Et c'est la piste qu'indique un autre texte, peut-être mieux connu des auditeurs de Radio Présence, puisqu'on a au début de l'évangile selon saint Marc une citation de ce texte. Alors, c'est difficile de faire plus au début, puisque au début de l'évangile selon saint Marc, il y a un titre, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et au verset 2, on a cette citation « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi ». Et il y a écrit avant, ça va peut-être nous faire sourire, il est écrit dans Isaïe le prophète. Je ne sais pas si l'auteur de l'évangile était bien au courant. En fait, il est en train de citer Malachie.
Oui.
Pour commencer une citation d'Isaïe, puisqu'en fait, après avoir dit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi », il dit, et là l'auditeur va reconnaître, « Pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers », c'est-à-dire une citation d'Isaïe, chapitre 40. Et donc, de qui s'agit-il ? Eh bien, d'après l'Évangile, la réponse est au verset 4, Marc 1, 4, « Alors Jean, celui qui baptisait, paru dans le désert. » Alors, il n'est pas dans le temple, comme dans la prophétie de Malachie, mais on voit bien qu'il est là pour préparer le chemin devant le Seigneur, celui que les chrétiens identifient, n'est-ce pas, comme le Seigneur, c'est-à-dire Jésus. C'est autant dire qu'on a là la figure d'un messager qui est vraiment un précurseur, vous voyez,
oui,
quelqu'un
donc
qui prépare le chemin,
alors.
Voilà, et ça correspond tout à fait à la figure de Jean-Baptiste, en tout cas dans l'évangile selon saint Marc et dans d'autres évangiles aussi. Donc c'est intéressant de voir ce messager qui peut-être dans le temps prépare le chemin. Et cependant, Malachie continue en disant « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez ». Alors nous sommes dans la Bible hébraïque. Même si dans beaucoup de Bibles, et en tout cas dans les Bibles catholiques, le livre de Malachie est le dernier de l'Ancien Testament. Et donc, on est juste avant, vous tournez quelques pages et vous arrivez à l'Évangile. Ça, c'est assez impressionnant. Et ça n'est pas par hasard si les prophètes ont été placés à cet endroit-là. Même si, entre parenthèses, ça n'est pas le cas de toutes les Bibles. Voilà.
D'accord.
En tout cas, les Bibles catholiques, d'habitude, effectivement, mettent les prophètes
juste
comme
avant
des
le
préparateurs
Testament.
Immédiats, si j'ose dire, voilà, du Nouveau Testament, qu'ils précèdent immédiatement. Et donc, voici que viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. La tradition chrétienne, là aussi, a identifié cette prophétie avec une annonce de la présentation au temple. Et en effet, dans la liturgie chrétienne, souvent on lit ce texte-là le 2 février, pour l'anniversaire de la présentation au temple, de la présentation du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? C'est intéressant parce que Malachie n'avait peut-être pas l'idée d'un être humain qui viendrait dans le temple, mais le Seigneur viendra dans son temple, c'est un thème assez présent dans la Bible, n'est-ce pas ? Où Dieu lui-même, avec sa présence mystérieuse et souvent extrêmement impressionnante, remplit le temple. On pense à la vision qu'a le prophète Isaïe, sans doute au début de son ministère.
Donc on a ce messager qui peut nous faire penser à Jean-Baptiste, on a le Seigneur qui viendra dans son temple. Est-ce qu'il y a d'autres liens à faire avec l'Évangile ou d'autres personnages qui sont présentés ?
Ma foi, c'est difficile de dire si le messager de l'Alliance, c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est mon messager qui est appelé ensuite messager de l'Alliance. Et puis on dit aussi qui pourra soutenir le jour de sa venue. Donc, il y a peut-être aussi une assimilation entre le messager et un être. Est-ce que c'est un être angélique, un prophète, une personne qui déploie une puissance extraordinaire, puisqu'il y a écrit ensuite « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?» Et dans nos Bibles, on a souvent une note ici qui parle du « jour du Seigneur ». Thème extrêmement présent chez les prophètes, très riche. Peut-être que c'est un petit peu difficile de le développer maintenant. Mais le jour du Seigneur, qui dans la tradition chrétienne est devenu, n'est-ce pas, avec un certain nombre de modifications et de précisions, le dimanche, le jour du Seigneur. Voilà. Mais on pense aussi au jour du jugement, au jour de la venue dans la gloire, où Dieu remplira toutes choses.
Est-ce que Malachi annonce quelque chose de particulier, puisque avec Michée, on avait ce prince de la paix. Est-ce qu'il y a aussi un pendant pour Malachie ?
C'est difficile à dire, parce que les versets qui parlent qui annoncent la venue d'un messie, d'un messager, ne sont pas forcément très précis. Peut-être on peut regarder la fin du livre, si vous voulez, la fin du chapitre 3, parce qu'il y a aussi des échos dans le Nouveau Testament, et ça sera familier, un texte familier pour beaucoup de nos auditeurs, je crois.
Je vous laisse le lire.
Alors, Malachi 3, les trois derniers versets, 22 à 24. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit sur l'Horeb décrets et ordonnances pour tout Israël. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. C'est intéressant que le prophète Malachi annonce en finale, et ce sont donc les derniers mots de l'Ancien Testament dans la disposition habituelle de nos Bibles, annonce à la fois qu'il faut se souvenir de la loi de Moïse, et il annonce la venue d'Élie. Et donc c'est intéressant parce qu'on a là, comme à la clôture de l'Ancien Testament, un rappel de la loi et des prophètes. Moïse, figure de la loi, Élie, figure des prophètes. Et d'ailleurs, cela rappelle pour les lecteurs de l'Évangile l'épisode de la transfiguration. Bien sûr, donc c'est intéressant de voir que les motifs des prophètes, et par exemple celui-ci, sont repris dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il parlera de Jean le Baptiste, avec qui nous avons passé un petit peu de temps il y a deux semaines, Jésus dira, eh bien, Élie, le grand prophète qui devait venir, c'est lui. Les gens se demandaient si Jésus était le prophète, et en fait, dans un certain nombre de passages de l'Évangile, Jésus ne refuse pas qu'on l'appelle prophète ou le prophète, mais il renvoie aussi à Jean le Baptiste. Donc c'est intéressant de voir comment ces différentes figures, en fait, ne correspondent pas forcément terme à terme. Mais on voit bien qu'elles annoncent toutes tel ou tel aspect de l'Évangile. Et c'est assez remarquable pour nous. L'Ancien Testament, bien sûr, a sa valeur en lui-même. Et en même temps, pour ceux qui reconnaissent un Nouveau Testament, eh bien, l'Ancien Testament est tout entier une préfiguration du Nouveau. Et donc, c'est vraiment un élément sur lequel on peut insister en lisant ces prophètes du temps de l'Avent. La liturgie nous y aide beaucoup, bien le dire.
C'est vrai. Dans ce chapitre 3, vous avez dit qu'il y avait une forme de réconciliation entre les générations. Là aussi, c'est un attribut du Messie. C'est prince de la paix, mais pas forcément au niveau international ou au niveau du temps, mais peut-être au niveau des familles.
Oui, c'est très important aussi pour nous. Et je crois que alors que nous approchons de Noël, beaucoup de gens en fait se préparent à se réunir en famille. Et un certain nombre s'occuperont aussi des personnes qui ne sont pas de leur famille. Mais c'est vrai que dans les familles, on peut voir ce moment arriver avec beaucoup de joie. Et puis, il y a peut-être aussi quelquefois un petit peu d'appréhension. Pas seulement à cause de questions matérielles. Et donc, on peut aussi demander cette grâce, vraiment, je crois, de la réconciliation, et que la venue du Messie, et puis cette période où on médite avec Jean-Baptiste et avec les prophètes, bien, nous aide à accueillir cette grâce de la réconciliation. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est ce passage de Malachie ou un autre qui est repris dans Éphésiens? Je pense que je me trompe et qu'en fait, c'est plutôt la référence à Michée que nous faisions tout à l'heure, qui est reprise dans la lettre aux Éphésiens. Et on dit que le Christ lui-même sera, le Christ lui-même est notre paix. Et dans une des lettres aux Corinthiens, Paul insiste longuement aussi sur le Christ qui est notre réconciliation. Je crois que c'est vraiment une grâce de Noël que nous pouvons espérer, à laquelle nous pouvons travailler aussi. On coopère, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu. Et alors que beaucoup de familles vont se réunir, les prophètes peuvent nous inviter à cela. Voilà, donc relisons la finale de Malachie aussi. Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, réconciliera les pères et les fils. Et on peut élargir, bien sûr, à toutes les familles, je crois.
Oui, bien sûr. Un dernier mot, peut-être, avec un lien que vous vouliez faire avec le livre de Jérémie, chapitre 30, versets 8 et 9.
Il est question, en 38, donc Jérémie 30, verset 8, du joug qui sera brisé. La fin de l'asservissement à des étrangers. Alors, on est dans des périodes de l'histoire d'Israël et de Juda qui sont très, très troublées. Le pays est menacé par des voisins plus puissants. Et puis, il y a écrit au verset 9, « Ils serviront le Seigneur leur Dieu et David, leur roi, que je susciterai pour eux. » Vous voyez, donc c'est vraiment l'espoir d'un roi, et on l'appelle même David ici. Et donc, on comprend, ça fait écho au texte qui est sans doute d'un siècle avant, de Michée, où on parlait de Bethléem. Vous voyez, c'est intéressant comment toutes ces pièces du puzzle, petit à petit, compose la figure du Messie. Et bien sûr, pour les chrétiens, on célèbre sa venue aujourd'hui, donc on a l'habitude de le représenter d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et on a la fin du chapitre 30 aussi de Jérémie. Un Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui, je lui permettrai d'approcher, il aura accès auprès de moi. Là, ça dit bien la grande proximité du Messie avec son Dieu, qui est pour nous aussi un signe d'un espoir inextinguible. Nous aussi, nous sommes des messies, nous sommes des Christ dans le Christ. Et il nous est donné de nous approcher de Dieu parce que le Seigneur nous le donne. Des promesses pleines d'espoir, je crois, pour nous.
Oui, nous allons rester sur effectivement cette promesse pleine d'espoir, comme vous dites, Père Cyprien Comte. Un grand merci.
Merci à vous.
Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler encore du prophète Isaïe. La veille de Noël.
À bientôt.